Si vous voulez mon avis, actuellement, les médias sociaux sont, selon moi, dans leur période d'adolescence. Et je m'explique. C'est parce que, depuis un certain temps, il se passe toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de commentaires qui sont émis de part et d'autre. Et c'est pas toujours joyeux. Il y a, quoi, 10, 12 ans, 15 ans, lorsque les médias sociaux sont apparus de façon plus présente dans nos vies, c'était un peu plus joyeux. Un peu de la même façon qu'on découvre un bébé, un nouveau-né. C'est la joie, il y a beaucoup de plaisir, tout le monde échange et c'est très heureux. Et à mesure que le temps avance et que ce bébé-là grandit, bien, il y a d'autres choses qui se développent. Ce bébé-là devient un peu plus autonome, fait un peu plus de choses par lui-même et s'affranchit peu à peu de ses parents et développe sa propre façon de penser. Et à travers ça, développe du mauvais langage et teste les limites et aussi... Rendu à l'adolescence, on dit souvent, on parle souvent, beaucoup avec nos tripes, on parle rapidement, on dit la première chose qui nous vient par la tête et on l'affirme comme si c'était une vérité. Et c'est un peu ça qui se passe sur les médias sociaux en ce moment. Au départ, tout le monde était un peu gêné de s'affirmer. Il y avait une certaine prudence et aussi... beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et à mesure que le temps avance, bien là, maintenant, on est rendu à une période où est-ce que les gens s'insultent, les gens disent la première chose qui leur passe par la tête sans réfléchir. Et c'est un peu à l'image de l'adolescence. Ce que je nous souhaite, c'est que l'adolescence se passe et que les médias sociaux deviennent adultes et passent à autre chose à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive, c'est pas toujours beau. On n'a pas toujours envie de voir ça. On n'a pas toujours envie d'être confronté à ça. Et moi, honnêtement, j'ai bien envie de mettre les ados en punition dans leur chambre et passer à autre chose. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. We'll be right back. Vous avez entendu une chanson qui s'appelle April Showers, d'un, je sais pas, c'est probablement pas un groupe, juste quelqu'un qui s'appelle, se surnomme Proletar. Vous m'avez entendu en introduction trouver que on est rendu à l'adolescence des médias sociaux. Et honnêtement, je nous souhaite que ça passe à l'âge adulte. Plus ça va, plus je suis silencieux sur les médias sociaux alors que j'étais très actif à une certaine période. Même pour commenter, honnêtement, je trouve que il y a juste beaucoup de chialage. Ça mène à rien. Bien souvent, et il y a beaucoup d'insultes et toutes sortes de choses, et non seulement sur les médias sociaux, mais aussi sur les sites des nouvelles, et je trouve que souvent, même les sites de nouvelles encouragent ça à quelque part en étant très sensationnaliste et en faisant aussi des titres à sensation, et bien souvent quand on lit les commentaires, les gens n'ont même pas lu l'article. Donc, lisez plus, commentez moins, faites aller votre cerveau, soyez critique. Je pense que les médias sociaux et le monde va s'en porter mieux. Hey, bonne année 2017! Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais remercier tout le monde pour vos commentaires en 2016. C'est très apprécié, vos commentaires. Parfois, j'en reçois par courriel. Parfois, j'en reçois à différents endroits. Parfois, les gens, c'est drôle, moi maintenant, mais à une certaine époque, je recevais beaucoup de commentaires sur Twitter. Donc, j'ai eu des commentaires récents, certains récents de mémoire, que j'ai reçu. J'en ai reçu sur iTunes. Donc, je vous encourage encore une fois d'aller sur iTunes, de laisser des étoiles ou aller dans l'application podcast sur iOS. Vraiment, faites des commentaires. Je suis rendu à quoi? 39 notes, 39 étoiles, 25 avis. Et ça aide beaucoup. Donc, s'il vous plaît, allez le faire vous aussi. Dernièrement, au mois de décembre, il y a Yves Schwendenhan qui disait « Je me rends compte que je n'avais pas encore laissé un commentaire sur iTunes pour cet excellent podcast de Sylvain Grandmaison. Merci. » Il dit aussi « La qualité est présente tant dans le fond que dans la forme. » Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Écoute, je te retourne le compliment. C'est la même chose de mon côté concernant ton podcast. J'ai reçu aussi un message de Régnier Carbalosa, un prof, en fait, du Texas. Mais en fait, c'est un prof cubain qui habite au Texas. Il est passionné de français. Il enseigne le français. Et vous seriez surpris de voir à quel point il y a beaucoup d'Américains qui écoutent mon podcast. Je pense même plus d'Américains que de Français de France. Et je ne sais pas pourquoi, dans la région du Nouveau-Mexique, Texas, sud-ouest américain, il y a énormément, énormément de gens qui écoutent mon podcast et il y a énormément de gens qui apprennent le français. C'est paradoxal vu la proximité avec le Mexique, mais en tout cas, je te salue, Régnier, et je t'encourage à continuer à écouter mon podcast. Sans plus tarder, vous le savez, il y a le carburant de la semaine. Mesdames et messieurs, oups, désolé, je l'ai déjà débouché. Je vais quand même le vider dans vos oreilles. Attendez un instant. Oh, c'est beau. C'est roux. Ça fait une jolie mousse. Et ça sent épicé. Ça sent épicé et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une bière d'automne. C'est des bières qui m'ont été données. J'en ai eu 4 bouteilles. 3 d'une brasserie qui s'appelle Royal City Brewing Company. Et une d'une compagnie qui s'appelle Elora Brewing Co. Celle de Elora était une pale ale au citra extrêmement bien faite, bien équilibrée. Le houblon citra qui donne des notes d'agrumes. Sinon, les 3 autres, Royal City, produisent des bières d'inspiration plus classique, plus, je dirais, un peu d'inspiration anglaise. J'ai bu la Red Ale, qui s'appelait la Remembrance Red Ale. J'ai bu la Hibiscus Saison, et son côté saison n'était pas si prononcé que ça. D'habitude, une saison, c'est assez sec, et la levure donne une saveur très particulière. Dans ce cas-là, c'était un petit peu moins présent. Des notes de fleurs d'hibiscus, c'était très, très bon. Et là, c'est la Squash and Sweet Potato Autumn Red Autumn Ale. Et c'est roux. Et c'est probablement dû au fait qu'ils ont mis des maltes caramel roux. Je vais la goûter dans vos oreilles. C'est très bon. Ça fait changement des bières à la citrouille. Là, c'est à la courge et à la patate douce. Il y a une belle rondeur. C'est vraiment bon. C'est surprenant parce que le côté de la courge ressort quand même bien. Souvent, quand on a des bières à la courge ou à la citrouille, on a le côté de la courge et de la citrouille qui ressort beaucoup, mais à cause des épices qu'on a mis dedans, là, en ce moment, les épices ne sont pas si présentes que ça. Et il y a vraiment une rondeur donnée par la courge et les patates douces. C'est vraiment... Faut que j'en reprenne une autre bouchée, une autre gorgée, pardon. Excellent. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé les autres, mais je pense que c'est ma préférée d'entre les 3 bières. Donc, c'est produit à Guelph, en Ontario. C'est une bouteille de 650 ml qui fait 6% d'alcool. Ça m'a été donné par Catherine Matthews et Rob Lee, que je salue. On s'est vu tristement lorsque mon ami Bob est décédé et ça arrive à l'occasion quand on se voit. Il me donne de la bière. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, des francophiles, des gens qui ont habité en France. J'en ai déjà parlé dans des émissions passées. Et ben, je vous salue, je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de vous revoir, bien sûr. Je vous parlais d'événements de podcasting. Il y a eu un événement passé qui a eu lieu à Toronto. Je voulais vous en parler parce que c'était vachement intéressant. Il y avait le Hot Docs Podcast Festival. Pour ceux qui connaissent peut-être les Hot Docs, c'est un festival de documentaires qui a lieu normalement, si ma mémoire est bonne, au printemps. Et là, ben, ils ont organisé un festival de podcasting. Donc, avec un côté qui font ressortir plus le côté documentaire du podcasting dans ce festival-là. Donc, ça avait lieu les 18, 19 et 20 novembre à Toronto. Et qui y avait là? Ben, il y avait plusieurs des plus grands podcasts américains, des trucs de Gimlet Media, des trucs de la radio publique américaine, vraiment des invités de renom, de l'enregistrement devant public, mais aussi des conférences pour parler du médium puis pour discuter avec les gens. Je l'ai su vraiment, vraiment à la dernière minute et aussi c'était dans les semaines où Bob est décédé. Fait que j'ai eu envie d'y aller, mais j'étais pas dans le mood pour ça, puis c'était un peu trop à la dernière minute comme ça. Un autre événement qui s'en vient, ça s'appelle PodCamp Toronto 2017. C'est la 12e édition. En fait, ça a commencé en 2006. C'est ça? Non, c'est la 11e édition. Donc, ça a commencé en 2007, mais c'est la 11e vu que ça fait 10 ans, si vous faites le calcul. Donc, ça a lieu à l'Université Ryerson de Toronto les 24, 25 et 26 février. C'est la première année, je pense, que ça commence le vendredi. Donc, je vais sûrement y aller. C'est sûr que, contrairement aux autres années, ben j'ai pu mon partner Bob pour voyager. Je vais peut-être me trouver quelqu'un d'autre. Peut-être je vais juste y aller tout seul, puis profiter de nos amis ontariens. Donc, je vais vous tenir au courant. Je vous encourage à y aller. Il y a une certaine époque, on était 15-20 de Montréal aller au PodCamp Toronto. L'an passé, il y avait Bob et moi seulement. Donc, ça serait le fun qu'il y ait un petit peu plus de monde cette année. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais si vous êtes un podcaster ou un fan de podcasting, peut-être que vous l'avez vu, c'est que Facebook va lancer le live audio. Donc, après le live vidéo, le live audio, pour moi, ça va être un game changer pour le podcasting en 2017, ou plutôt, je souhaite que ça devienne un game changer pour le podcasting en 2017. En fait, ils font des tests en ce moment avec la BBC, avec Harper & Collins, qui est un éditeur de livres, et quelques auteurs. Pourquoi avec des auteurs et avec des éditeurs? Mais c'est parce que souvent, les auteurs font de la lecture devant public, font des discussions devant public et font aussi de la lecture de fiction. Donc, c'est assez bien approprié au format du podcasting. Donc, il y a des tests qui se font en ce sens-là. Pour les producteurs d'audio, qu'est-ce qui est le fun? Bien, c'est qu'on va pouvoir configurer l'image qui accompagne l'audio un peu comme l'image d'un podcast. Il va falloir évidemment donner accès à son micro, comme pour le live vidéo, et on va pouvoir commencer. Pour les auditeurs, comment ça va se passer? Bien, c'est un peu la même interface que pour la vidéo. Il va y avoir un chat, on va pouvoir partager l'audio en direct avec nos amis, et on va pouvoir recevoir des notifications quand la diffusion de quelqu'un de notre entourage ou certaines pages qu'on a likées, quand ça va commencer. Sur Android, on va pouvoir continuer à écouter l'audio en direct, même si on quitte l'application Facebook. Ça, c'est vraiment une belle fonction. Sur iOS, ben, faut que l'application soit encore active. Donc, on peut en sortir, mais il faut qu'elle soit encore active. Évidemment, si on l'enlève de nos applications actives, ben, l'audio va couper. Donc, on va pouvoir continuer à écouter tout en continuant à naviguer sur Facebook, mais il ne faut vraiment pas quitter l'application. Pourquoi ça risque d'être un game changer? Bien, parce que il n'y a pas eu beaucoup d'applications pour faire de l'audio live sur Internet. tout a été souvent tourné vers la vidéo. Et l'avantage aussi, c'est que on peut dire rapidement notre communauté et rester à l'intérieur de l'application. À une certaine époque, il y avait des Ustream et autres plateformes, par exemple comme YouTube, pour diffuser live, par exemple, en vidéo. Le désavantage, c'est que l'action se passe sur un site alors que notre communauté est ailleurs. Donc, quand la communauté est à l'endroit où est-ce qu'on diffuse, c'est là que ça peut vraiment être efficace et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer et quand on aura accès à ça. Dès que j'aurai accès, je vous tiens au courant et je vais sûrement faire des tests là-dessus. Il y a des podcasts qui sont portés à la télé. J'en ai déjà parlé auparavant. Il y a différents podcasts. Il y a Gimlet Media qui a fait des podcasts qui ont été portés à la télé. Il y a aussi des podcasts de fiction. Ça aussi, j'en avais déjà parlé par le passé. Et là, ben, il y a Gimlet Media qui a annoncé qu'il y avait un autre podcast de leur cru qui allait être porté à la télé. Donc, il va y avoir le podcast Startup qui va être porté à la télé bientôt. Startup, c'est quoi? C'est un podcast sur les entreprises en démarrage, surtout des entreprises technologiques, donc des entreprises qui développent, par exemple, des applications, qui développent des services ou des sites web. Donc, eux avaient démarré à l'origine leur podcast Startup pour le démarrage de Gimlet. Ensuite, ils ont suivi d'autres entreprises, la plus récente étant la nouvelle entreprise de Dove Charney. Dove Charney, c'est le fondateur d'American Apparel. Il a fondé une nouvelle compagnie et la dernière saison qui a terminé récemment, il y a peut-être une semaine ou deux, mais on suivait ce gars-là. On suivait aussi un peu sa start-up, mais tous les scandales sexuels l'entourant. Je vous conseille d'aller écouter ça. Donc, ils vont porter start-up à l'écran. Par exemple, par contre, ce qu'ils vont parler dans Startup, ça va être l'histoire de Gimlet Media. Donc, ça risque de reprendre en partie qu'est-ce qu'ils ont parlé à propos de Gimlet Media lorsqu'ils ont démarré Gimlet Media. Mais ils risquent aussi de parler des derniers développements et on risque de suivre la compagnie. J'ai pas plus de détails, mais ça tire beaucoup mon attention. Ça va être diffusé sur ABC. Et il y a un deuxième show qui est appelé Homecoming, qui devrait lui aussi être adapté pour le petit écran, un autre show de Gimlet Media. Homecoming, c'est un podcast de fiction. Il l'appelle fiction expérimentale. J'ai écouté quelques épisodes en audio, mais je n'ai pas vraiment accroché. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être adapté. Je risque peut-être un petit peu plus d'accrocher quand ça va être adapté pour la télé. Les podcasts sont toujours en croissance chez Apple. Le nombre de téléchargements a dépassé les 10 milliards au cours de la dernière année. Donc, plus de 10 milliards de téléchargements via iTunes, l'application de podcast sur iOS ou sur Apple TV. Donc, on ne comptabilise pas les téléchargements des autres agrégateurs de podcasts qui tournent aussi sous iOS. On ne comptabilise pas non plus ce qui est sous Android ou ce qui est écouté via le furteur ou ce qui est téléchargé ailleurs manuellement sur l'ordinateur ou peu importe où, juste ce qui passe à travers la plateforme d'Apple. Donc, c'est quand même massif. 10 milliards de téléchargements en même temps, il y a encore de la place à de la croissance. J'ai hâte de voir ça va être quoi les chiffres l'an prochain. En même temps, iTunes et l'application podcast sont en perte de vitesse pour le podcasting, alors que Android et tout le streaming live prend beaucoup plus de place. Donc, on peut s'imaginer que, on ne sait pas combien, mais il y a énormément de podcasts qui sont téléchargés. Je vous fais jouer une autre chanson et je vous reparle tout de suite après.
I'm tired of these self-righteous environmentalists who think the only thing wrong with this country is there aren't enough bicycle paths. Besides, environmentalists don't give a shit about the planet. Not in the abstract, they don't. There is nothing wrong with the planet. Nothing wrong with the planet. The planet is fine.
The people are fucked.
Hey, donc cette chanson-là s'appelait Self-Righteous de Annie Tech. Pour faire suite à ce que je disais avant la chanson, on parle des podcasts chez Apple. Le podcast le plus téléchargé de l'année, selon Apple, c'est Fresh Air de NPR, la radio publique américaine. Donc Fresh Air, c'est un talk show classique enregistré à Philadelphie. L'animatrice s'appelle Terry Gross. Elle est aussi coproductrice au contenu ou quelque chose du genre. Ça parle de quoi? Ben, ça parle de culture, donc de comédie, de littérature, de musique, de cinéma et autres. Terry Gross est une très, très bonne intervieweuse. C'est pas stérile comme entrevue, c'est pas plate. Il y a aussi des collaborateurs, donc des fois l'entrevue s'en va dans une direction et paf, elle change un peu change pas le propos, mais elle change un peu le cours de la discussion et ça donne place vraiment à des trucs le fun. Donc, c'est un peu surprenant en même temps parce qu'il y a eu d'énormes succès au niveau podcasting, des trucs qui ont été hyper, hyper téléchargés. Mais pourquoi c'est le podcast le plus téléchargé? Ben, c'est un podcast qui est quotidien, donc 5 jours semaine, et qui a une énorme stabilité. Donc, c'est sûr que si on pense que c'est diffusé 5 jours semaine, presque à 50 semaines par année, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens, surtout si c'est ultra populaire. Et ce qui est un peu bizarre, c'est quand même de la radio dans sa façon la plus classique. je trouve que c'est quand même pas quelque chose qui prend, qui se sert adéquatement du podcasting et du fait que c'est en différé. C'est plus une commodité, je dirais, parce que c'est diffusé un peu partout en Amérique. Oui, c'est quand même top qualité. Moi, je vous conseille d'aller écouter si vous voulez écouter des bonnes entrevues. C'est vraiment la place pour faire ça. Je voulais vous parler de mes coups de cœur 2016 en podcasting, donc les 10 shows que j'ai appréciés pour différentes raisons. Le premier, c'est Ça vient de là, de Yves Schwendenman. Je sais, j'ai peut-être massacré ton nom, Yves, malheureusement. C'est très, très bon. C'est bien fait, bien documenté. Honnêtement, là. Évidemment, vous allez écouter Yves à l'accent. Bon, il est européen, c'est sûr. Mais il habite ici et il y a toutes sortes de sujets. Beaucoup, il parle beaucoup de musique, quoique il a annoncé récemment qu'il allait donner un peu moins de place à ce segment-là pour se consacrer à autre chose. Ça vient de là, c'est quoi? Ben, c'est un podcast où est-ce que des auditeurs proposent certains sujets à décortiquer, à aller trouver la racine. Parfois, c'est la racine d'une expression, c'est la racine de différentes choses. Donc, les gens envoient des demandes et lui, ben, décortique d'où ça vient. C'est super intéressant. J'écoute souvent ça dans l'auto avec mon fils. Et mon fils de 12 ans adore lui aussi. Donc, je vous le conseille. Le deuxième, ça s'appelle « Le dernier cyber avant la fin du monde ». C'est animé par Siegfried, Sharon, Tom, Maxime et d'autres. Les collaborateurs sont pas nécessairement pas réguliers, mais il y a une équipe, donc il y a toutes sortes de gens. Mais il y a, je pense, Siegfried, Sharon, Tom et Maxime sont les plus courants. C'est un podcast français. Le dernier cyber, c'est pourquoi? Mais c'est un cybercafé. Donc, oui, un cybercafé classique avec des ordinateurs physiques, pas un endroit où est-ce qu'on apporte son propre ordinateur. Donc, oui, ça existe encore. Donc, celui-là, c'est un des derniers qui existe encore à Paris. Et les gens racontent les histoires qui se passent avec les clients. Comme par exemple, quelqu'un qui arrive, qui a quelque chose sur sa tablette et qui demande de faire photocopier sa tablette. Et on lui répond tout simplement, ben, pourquoi vous ne voulez pas juste l'imprimer finalement? Donc, c'est très drôle. Moi, je vous le conseille, ça aussi. C'est une belle découverte de l'année passée. En troisième position, le retour de Bruno Guglielminetti. Bruno, qui était jadis à Radio-Canada, qui était réalisateur, entre autres, de l'émission de Christiane Charrette et bien, bien d'autres choses auparavant. Il a commencé, je crois, ben, je ne sais pas s'il a commencé, mais en tout cas, il a fait une partie de sa carrière dans l'Ouest canadien. Et ici à Montréal, ben, c'est lui qui a commencé le podcasting autour, je pense, de 2005. Donc, avec le Carnet Techno. Le Carnet Techno qui existait au début en sous forme de blog et il l'a transformé en podcast autour, je crois, de 2005. Donc, Bruno avait quitté Radio-Canada il y a quand même quelques années, peut-être de mémoire, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. Il était dans le milieu plus corporatif. Il a travaillé entre autres pour National, entre autres pour Juste pour rire. Et maintenant, il est à son compte et il a dépoussiéré ses micros, je dirais, puis il nous offre une émission qui s'appelle Mon Carnet, qui ressemble un peu au Carnet Techno, quoique le Carnet Techno était souvent un petit peu plus condensé, un petit peu plus rapide, rythmé. Là, on sent qu'il y a un côté un petit peu plus relax, mais au niveau des thèmes, au niveau du style, ça reste Bruno Guglielminetti. En quatrième position, le Supermatozoïde de Mike Tremblay que j'ai eu ici à l'émission lorsqu'on est allé faire le podcast Mania, que j'ai déjà parlé, Mike, qui a un ton très podcast, mais une forme radiophonique, mais dans ses sujets quand même, ou dans sa façon de faire, c'est pas ce que vous entendriez nécessairement à la radio traditionnelle. Il y a une liberté qui est là avec le podcasting qui lui permet de faire des choses, mais il y a une formation d'animateur de radio, veut pas. Donc, ça paraît. Donc, c'est bien fait. C'est de la qualité. Je l'écoute pas à tous les épisodes ou parfois, bon, j'écoute une partie de l'épisode, mais j'aime beaucoup ce que fait Mike, donc je vous le conseille ça aussi. En cinquième position, Someone Knows Something de la CBC. Vous allez voir, les autres, j'en ai beaucoup, beaucoup en anglais. J'écoute beaucoup de shows en anglais. Donc, Someone Knows Something, c'est quoi? C'est du journalisme d'enquête. L'an passé, je crois, est-ce que c'était au printemps ou juste avant l'été, en fait, il parlait d'une histoire, je pense, j'en ai déjà parlé, mais c'est une histoire d'une disparition d'un enfant de 5 ans dans les années 70 lors d'un voyage de pêche. Et là, ben, on essayait de retracer des indices, aller retourner un peu sur les lieux puis essayer de parler aux gens qui étaient là à l'époque puis tout ça pour essayer de retrouver un peu ce qui s'est passé. Ils ont même fait appel à des chiens pour essayer de retracer. Et les chiens, croyez-le ou non, ils en ont amené plusieurs. Et à toutes les fois, les chiens sentaient quelque chose à un certain endroit proche du lieu où l'enfant a disparu il y a 40 ans. Donc, peut-être que le corps est au fond de l'eau. Et il y a des développements récents là-dessus. Ils pensent avoir trouvé quelque chose. Donc, c'est vachement intéressant. Bon, c'est sûr, c'était une histoire triste, mais c'est extrêmement bien fait. C'est du beau journalisme d'enquête, un peu à mi-chemin entre le documentaire et le journalisme d'enquête. Donc, moi, je vous le conseille énormément. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année passée. Et en ce moment, on est en plein milieu ou plus vers la fin d'une nouvelle saison d'un truc tout aussi passionnant. Donc, je vous le conseille. En numéro 6, The Marshall McLuhan Variety Hour, qui était animé par mon ami Bob, qui est décédé, Bob Goyetch, avec Anthony Marco et Dave Broadbeck. Anthony, qui est pas très loin de Toronto, et Dave Broadbeck, lui qui est à Sault-Sainte-Marie. Dave Broadbeck qui est prof de psychologie à l'université. Un drôle de numéro, honnêtement, mais absolument adorable comme type. Anthony aussi, c'est juste des gars super sympathiques. En fait, ce qu'ils font là-dedans, c'est qu'ils font semblant que Marshall McLuhan, qui a un talk show, n'est pas là, puis eux doivent le remplacer. Et parfois, vraiment, ça dérape. Ça faisait quand même un bout de temps qu'ils faisaient cette émission-là, mais j'ai accroché vraiment plus l'année passée en revenant de Podcamp Toronto, où est-ce que j'en ai parlé un petit peu plus en profondeur avec Bob, puis je me suis mis à l'écouter. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a parfois, ça dérape, ils ont des fous rires, ça déconne. Évidemment, Bob n'est plus là, mais ils ont recommencé à le faire un peu avant Noël. Donc, je n'ai pas encore écouté le dernier épisode, mais je vais sûrement faire ça. Puis, je vous le conseille vraiment, c'est du podcast indépendant. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est vraiment le fun. En numéro 7, Startup de Gimlet Media. J'en ai parlé tantôt parce que c'est porté à l'écran, mais c'est le fun à chaque saison. C'est peut-être la quatrième saison officielle en ce moment. À chaque saison, c'est une nouvelle entreprise ou une série d'entreprises. Ils ont fait ça aussi une saison précédente. Ils ont suivi plusieurs entreprises. Ils parlaient de plusieurs entreprises de start-up. Et là, ils ont vraiment suivi Dove Charney, tous ces démêlés. Honnêtement, allez écouter ça. La dernière saison, ça vaut la peine. Dove Charney, c'est un Montréalais. C'est un gars qui a eu beaucoup de succès. American Apparel valait $1 milliard avant qu'il se fasse foutre à la porte par le conseil d'administration. Et là, il est en train de redémarrer. Donc, ça vaut la peine. En numéro 8, Millennial de Megan Tran. Millennial, c'est quoi? Ben, c'est une fille qui a juste commencé à s'enregistrer, à enregistrer ses préoccupations de millénaires, de la génération des milléniaux. Donc, des fois, elle se pose des questions sur la vie, sur les relations, sur le fait d'avoir une maison, sur la possibilité d'avoir une maison pour quelqu'un qui a, au début de la vingtaine, dans une Amérique qui, parfois, vend leur maison beaucoup trop cher. Donc, je vous le conseille, c'est le fun. Ça aussi, c'est un de mes bons coups de cœur parce que c'est pas ma génération. En même temps, je suis passé par les mêmes questionnements à une autre époque. Et c'est le fun de la suivre. Pourquoi? Mais entre autres, parce que c'est fichtrement bien réalisé. Donc, c'est une personne qui connaît la production audio, qui a commencé au début à produire comme ça. Et maintenant, ben, elle est associée avec d'autres podcasters et elle gagne sa vie à faire ça. Et il y a d'autres gens qui aident à produire. Donc, Millennial de Megan Tran, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Un autre que j'ai découvert il y a à peu près un an, ça existe depuis plus longtemps que ça, mais ça s'appelle Song Exploder de, je vais essayer de prononcer comme il faut, Hrishikesh Hirway. Oui. Donc, c'est quoi? Ben, c'est un gars qui décortique les chansons en compagnie des auteurs de ces chansons-là. Des fois, c'est des gens qui sont un peu connus. Des fois, c'est des gens qui sont pas connus. Des fois, c'est des gens qui sont extrêmement connus. Par exemple, les gars du U2. Donc, ils ont déjà décortiqué des tunes, une tune de U2. Donc, c'est vraiment le fun. Ils décortiquent, entre autres, comment ça a été enregistré. Ils décortiquent aussi comment ça a été conçu, parfois, les chansons, l'état d'esprit dans lequel ça a été fait, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Je me rappelle aussi, il y avait un épisode avec Björk. Donc, si la musique vous intéresse, et même si vous ne connaissez pas en profondeur la musique, c'est le fun à écouter. Honnêtement, là, allez écouter ça, c'est quelque chose. Il y a aussi, en numéro 10, le podcast Revisionist History de Malcolm Gladwell. Je ne sais pas si vous connaissez Malcolm Gladwell, mais il écrit des livres, pas vraiment, ben un peu de marketing, c'est un peu rapport avec le marketing. Il est éditeur au New Yorker. Et qu'est-ce que c'est Revisionist History? Ben, c'est un peu sa façon de faire les choses de Malcolm Gladwell, de revoir des événements ou des moments dans l'histoire sous un œil différent. Et ça a été ça, Revisionist History. Ça a été un podcast hautement populaire quand c'est sorti, évidemment parce que le gars, il est super connu, mais aussi parce que le podcast était tout simplement très, 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 très bon. Donc, c'était mon numéro 10 pour mes podcasts de l'année. Comme c'est mon habitude, bien souvent, à la fin d'une année ou au début d'une autre année, je parle de ce que je vois comme étant des tendances au niveau du podcasting et de ce que je vois aussi comme peut-être des prévisions. Sans vraiment faire des prévisions à 100%, mais j'aime ça faire ça et c'est ce que je vais faire en ce moment même. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment ou qu'est-ce qui s'en vient de plus en plus? C'est la dématérialisation du podcast. Pourquoi? Mais parce que l'audio se répand partout et sous toutes ses formes, sur toutes sortes de plateformes, que ce soit live, que ce soit disponible en streaming. On n'est plus nécessairement prisonnier d'une plateforme, mais ça devient compliqué à gérer. À l'époque où est-ce que tout le monde downloadait les podcasts sur iTunes que le live ou le streaming était moins présent, bien, il y avait une seule façon de consommer et on ne se posait pas la question. Là maintenant, les façons de consommer l'audio sont multipliées. Ça devient compliqué à gérer pour la personne qui diffuse parce que pour être sûr que ça se retrouve vraiment partout, ça devient tough, ça devient difficile. Donc, ça va demander beaucoup plus de travail aux podcasters, mais de plus en plus, le podcasting ne sera plus simplement un fichier MP3 mis dans un fil RSS téléchargé par un agrégateur. C'est consommé partout et de façon de plus en plus transparente. Et c'est ce qu'on souhaite que ça devienne de plus en plus transparent, de pouvoir accéder au podcast. Ce qui s'en vient aussi beaucoup comme tendance au niveau du podcasting, c'est le « curated content », donc du contenu de qualité qui est sélectionné et proposé par quelqu'un de fiable. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est que le nombre de podcasts explose. Il y en a, c'est incroyable, et on a de la difficulté à se retrouver là-dedans. Moi, ce que je reproche des fois au regroupement de podcasters ou, par exemple, aux plateformes qui proposent un catalogue de podcasts, c'est que il n'y a pas de filtre. Il y a tout et il n'y a rien en même temps. Il faut fouiller pour trouver de la qualité bien souvent ou des choses qui nous intéressent parce que c'est peut-être parfois mal catalogué. Donc, je pense que de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont sélectionner les choses et nous les proposer. Donc, si on aime certaines choses, on va nous les proposer. Et il y a d'ailleurs des émissions de plus en plus qui font ça. Il y a une émission, je ne me rappelle plus du titre, de Gimlet Media, qui font ça, où est-ce qu'ils nous proposent des podcasts. Et c'est pas sans rappeler, à l'époque, au début du podcasting, où est-ce qu'il n'y avait pas de catalogue de podcasts, comme on faisait pour trouver des podcasts. Il y avait le Daily Source Code de Adam Curry qui nous faisait découvrir ces podcasts-là. Une autre chose qui s'en vient de plus en plus populaire, c'est les regroupements de podcasters. Oui, il y en a, ça existe depuis longtemps. Mais la différence maintenant, c'est que ce n'est pas juste de se regrouper pour se regrouper, mais on va se regrouper de plus en plus à la manière d'une station de radio ou d'un producteur. Donc, il y aura un standard de qualité chez ces producteurs-là. Donc, on va se regrouper peut-être parfois par champ d'intérêt. Donc, offrir un bouquet de podcasts technologiques, par exemple, mais qui abordent différentes choses au niveau de la technologie. Ça peut être une façon de faire. Ou, par exemple, vraiment un regroupement qui propose des podcasts d'une grande qualité, mais plus généraliste sur différents sujets. Moi, je verrais très bien un regroupement de podcasteurs qui propose un podcast sur la cuisine, un podcast sur la technologie, justement, un podcast sur les finances personnelles, etc. Donc, c'est une tendance qui commence à être présente et qui risque d'être de plus en plus présente. Il y a aussi la publicité dans les podcasts au Québec qui risque d'être une tendance. Maintenant, c'est marginal. Ça devrait se répandre tranquillement. Et aussi, on risque de voir apparaître de plus en plus de régies publicitaires de podcasts et des régies publicitaires de podcasts, peut-être aussi au Québec. Il y en a, il y a des regroupements de YouTubers. Il y a des entreprises qui font du placement dans les trucs, dans les vidéos de YouTube. Et là, ben, ça risque de se répandre un petit peu plus vers le podcasting aussi. Une autre de mes prévisions, et ça, c'est peut-être un souhait. Les trois autres que j'ai pour vous, c'est plus des souhaits que je dirais que des prévisions réelles. La première, c'est que un podcast qui ferait un hit au Québec. C'est-à-dire, il y en a en ce moment qui sont hautement populaires. Je pense à Trois Bières qui l'est de plus en plus. Je pense au podcast de Mike Ward. Mais c'est encore de niche. Ça reste un certain public qui écoute ça. Mike Ward ne s'adresse pas à tout le monde. Trois Bières ne s'adresse pas à tout le monde. Moi, ce que je prévois qui va arriver, comme c'est arrivé aux États-Unis, un podcast qui fait un méga hit au Québec, qui est plus grand public, dont on parle absolument partout, pas juste ici et là à l'occasion, mais vraiment, peut-être pas que ça fasse les nouvelles, mais qu'on en parle activement à la télé, dans les journaux, peut-être même à la radio. Il y a aussi, ça aussi c'est un souhait, une application ou un projet qui puisse remplacer iTunes. Je le dis encore, c'est plus un souhait qu'une prédiction. Pourquoi? Ben, ça fait référence à ce que je disais tantôt, la dématérialisation du podcast. À un moment donné, c'est beau que ça se retrouve partout, mais ça serait le fun qu'il y ait quand même un hub central, un endroit où est-ce que les podcasts sont tous répertoriés, qui soit un petit peu plus indépendant et non dépendant d'une plateforme comme iTunes. Donc iTunes, c'est bien parce que il y a encore beaucoup de gens qui ont des téléphones iPhone qui travaillent, qui fonctionnent sous plateforme iOS, mais si on veut que tout le monde puisse y avoir accès et qu'il y ait un endroit centralisé, plutôt que chaque application crée son propre catalogue, bien qu'il y ait vraiment un endroit. Est-ce que ça sera un organisme indépendant ou une start-up ou quelque chose, mais ça serait le fun qu'il y ait ça. Et je prévois que ça risque d'arriver. Peut-être pas nécessairement en 2017, mais d'ici un an ou deux, ça risque d'aboutir. Dernière chose qui est hautement un souhait, c'est le renouveau du podcasting indépendant. Pourquoi? Bien parce qu'il y a de plus en plus de stations de radio qui se mettent au podcasting. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent au podcasting, qui produisent des podcasts qui ne sont pas nécessairement diffusés à la radio, mais qui sont des émissions conçues pour ce format-là. C'est très bien, c'est le fun. Il y a souvent du contenu de qualité, mais moi, ce que je souhaite et ce que je vois en train de se passer, c'est le renouveau du podcasting indépendant, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de podcasts indépendants qui soient produits de bonne qualité et qu'on en soit un peu plus conscient aussi. Ça aussi, c'est un de mes souhaits. Je rêve qu'il y ait des rencontres de podcasteurs indépendants. Je rêve qu'il y ait peut-être des prix, donc les awards du podcast indépendant, et pas juste au Québec, là, vraiment, pour redonner plus de place, parce que si vous allez dans iTunes en ce moment, ce qui est mis de l'avant, c'est souvent des podcasts de radio, c'est souvent des podcasts de compagnie. C'est correct. C'est parfait que ça existe, mais il faut que le podcasting indépendant ait sa place. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça met fin pas mal à mon podcast. Je suis rendu à 53 minutes. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous dire que la musique d'aujourd'hui a été trouvée sur Jamendo. Jamendo.com. Jamendo, la plateforme s'améliore de plus en plus. Quand ça a commencé il y a 10-15 ans, c'était pas agréable à consulter. Mais ça l'est de plus en plus. On peut se faire des playlists. On peut. Il y a une application pour écouter la musique en streaming. C'est sûr que vous ne retrouverez pas là la musique commerciale. Mais c'est le fun d'encourager les indépendants et il y a souvent du bon stock à trouver là, donc je vous le conseille. Si vous avez des commentaires, faites-le par courriel à québecbalado@gmail.com. Mais surtout, si vous voulez me faire plaisir, en 2017, allez commenter ou mettre des étoiles dans iTunes ou dans votre agrégateur de podcast préféré. Ça aide à mon show, ça me fait plaisir et ça m'aide à continuer. Je vous laisse avec une chanson qui s'appelle Liquid Blue de The Mad Pix Project. Donc, je vous dis à très bientôt et encore une fois, une très bonne année 2017. Ciao!